Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
À la une, cette mission des parlementaires congolais à Kampala, en Ouganda, elle est conduite par le député national Lambert Mende. Il s'agit d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. État généraux de la justice, les syndicats des magistrats rapportent plusieurs irrégularités dans l'organisation de ces assises. Ils disent craindre que les objectifs poursuivis par ce forum ne soient pas atteints. Ceci est contenu dans leur communiqué conjoint publié hier lundi. Et puis, des leaders communautaires sensibilisés par la section genre de la MONUSCO, notamment à Bogoro, Katoni et Komanda en Ituri, c'est sur l'égalité de sexe homme-femme ainsi que sur diverses formes de violences basées sur le genre. Pour en parler, nous recevons Noëlla Tabio, l'une des oratrices de cet atelier. Madame, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale de la RDC conduit ce mardi une mission parlementaire d'une semaine à Kampala, capitale de l'Ouganda. C'est pour appuyer la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme cela s'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde, conduite par le député national Lambert Mende. La délégation des parlementaires congolais a pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux nations. En marge de cette mission, le président de l'Assemblée nationale a donné des orientations et fixé les termes de référence de cette mission. C'était lors d'un échange hier à Kinshasa avec 11 députés nationaux membres de cette délégation. On écoute le chef de la délégation, Lambert Mende, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entourait pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule contre les forces terroristes des ADF Nalu, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement représentatif des intérêts du peuple congolais et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais.
Notez que cette initiative découle des échanges que le président Vital Kamerhe a eu avec son homologue ougandaise Anita Among à Accra au Ghana. C'était en marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des assemblées nationales se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les parlements de leurs pays respectifs, ce en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre le gouvernement congolais et Ouganda. Entre-temps, au Nord Kivu, la situation demeure tendue ce mardi dans la zone de Peti, territoire de Walikale. La zone fait face à d'intenses combats qui ont repris hier entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. La persistance des affrontements depuis quelques semaines dans la zone exacerbe la situation humanitaire qui affecte des milliers de ménages qui fuient des combats. Récit des faits avec Bernardin Nyangi.
Ce mardi matin, des tirs nourris ont encore été entendus entre Peti, Mijenje et Malemo, à moins de 10 km de Kalembe et à une vingtaine de kilomètres de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba, en territoire de Walikale. Selon plusieurs sources locales, des affrontements violents ont éclaté à nouveau hier lundi entre les rebelles du M23 et les éléments FARDC soutenus par les combattants Wazalendo dans la région. Ces sources évoquent, sans trop de précision, une possible avancée des forces loyalistes qui auraient reconquis Peti, localisant le combat entre les villages Mijenje et Malemo. La société civile de la région déplore pendant ce temps la situation humanitaire perpétuellement dégradée à la suite de l'intensification des combats depuis plus de 3 semaines maintenant dans cette zone. Selon ces sources, des milliers de familles et de personnes déplacées ayant trouvé refuge, les unes autour de l'hôpital de Pinga, les autres en brousse ou sur l'axe Pinga-Mutongunya-Biondo, continuent de vivre dans la précarité et sans aucune assistance. Goma, Bernardine Nguy, Radio Okapi.
En Ituri, environ 700 cultivateurs ont déjà regagné leur village d'origine depuis une année et vaquent librement à leurs activités dans la chefferie de Walesevankutu au sud d'Irumu. C'est le résultat de l'accord de paix et de cohabitation pacifique signé en 2023 entre les communautés locales jadis en conflit grâce à l'appui de la MONUSCO. Constat fait hier au cours de l'atelier d'évaluation de cet accord, travaux qui réunit les chefs coutumiers et notables des communautés Nandé et Lessé à Komanda. Le compte-rendu de Ezekiel Mouzalia.
Les communautés Lessé et Nandé au sud du territoire d'Irumu ont résolu d'enterrer les différends qui les opposent, notamment autour de la gestion des terres, surtout dans les groupements Bokutu et Bandiangu dans la chefferie de Walesevankutu. Des divergences qui avaient dégénéré en violence, avec comme conséquence des pertes en vies humaines, l'incendie des maisons et les déplacements des populations. Selon le président de la société civile locale, les deux communautés vivent désormais ensemble en harmonie. Dieudonné Malangaï.
On vient de déatifier 1024 cultivateurs. Nous venons de faire rentrer 708 cultivateurs dans leur champ et aujourd'hui ils sont sur terrain et sont en train de cultiver. Il y avait la division auparavant, mais pour le moment, la cohabitation est renforcée.
L'administrateur du territoire d'Irumu salue cette prise de conscience qui augure d'une paix durable dans la région. Le colonel Siro Simba invite les deux communautés à préserver les acquis de cette paix.
La chefferie de Walesevankutu, pour moi, c'est la chefferie martyre. Avant, les laissés de cette terre. Des communautés à couteau tiré, maintenant elles sont ensemble, ça donne notre force.
Plus de 70 villages jadis vidés de leurs habitants sont de nouveau habités grâce au dialogue communautaire et aux opérations conjointes contre les rebelles des ADEF dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Yakoma. Nous sommes dans la province du Nord Ubangi. Ici, la population court le risque d'insécurité alimentaire à printemps. En cause, la présence accrue des éleveurs nomades Mbororo qui proviennent du Soudan du Sud. Ils arrivent par colonnes et envahissent les zones arables pour servir des pâturages à leurs troupeaux. Les témoins affirment que ces étrangers sont armés de fusils et prêts à abattre toute personne qui oserait chasser leur cheptel. Conséquence, les paysans congolais craignent de fréquenter leur champs ou effectuer leurs activités dans la forêt. Le président du conseil territorial de la jeunesse de Yakoma lance ici un SOS à l'endroit des autorités. Fiston Gala est au micro de Paul Richard Malingela.
Les éleveurs Mbororo sont toujours là, hein. Ils sont partout dans les territoires. S'ils arrivent, ils disent qu'ils ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais ils sont déjà prendre du temps et ils sont en train de progresser. Ils étaient dans le groupement Mbongo, Awapinda, groupement Gembere, groupement Bira, groupement Lao Est, aujourd'hui, on les trouve déjà aussi dans le groupement Modale. Donc, ils sont en train de chercher des tours de pâturage, ils se promènent, les cris d'alarme de la population n'ont pas de place, donc ils sont encore là, ils sont là. Il y a évasion des éleveurs Mbororo. Donc, la population est en train de lancer des cris d'alarme auprès des autorités pour rechercher à nous trouver une solution. Parce que nos gens ont peur maintenant d'aller dans des forêts cultiver leurs champs. Vous voyez que nous avons peur de la sécurité alimentaire qui pourra nous arriver d'un moment à l'autre.
Parlons à présent des états généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa. Après 5 jours de travaux dominés par des exposés des panélistes venus de tous bords, les syndicats des magistrats font leur évaluation et relèvent plusieurs irrégularités dans l'organisation de ces assises. Ils disent constater avec amertume la théâtralisation dans le déroulement des travaux. Ils le disent dans leur communiqué conjoint publié hier. Jussi, Sinamac, Saint-Crémac et Simco redoutent que les objectifs poursuivis par ce forum ne soit pas atteint. Il signale une pléthore des participants constitués en majorité des membres des partis politiques, notamment Nogec et des étudiants. Jeff Ngoy suit ses assises pour le compte de Radio Okapi. Voici son reportage.
Henri Dianda, président du Saint-Crémac, énumère quelques irrégularités.
Le Conseil supérieur de la magistrature et les autres acteurs majeurs de la justice n'ont pas été associés dans l'organisation des présents travaux. La très faible prise en charge des participants, en particulier les magistrats venus des provinces. Le fonctionnement occulte du secrétariat technique dont les membres ne sont pas connus des participants. La sélection orientée des intervenants, le temps des travaux en atelier réduit à un seul jour risque de rendre superficiel les débats.
Thank you. Ces bruits proviennent des militants des partis politiques et parfois des étudiants, soit pour applaudir certains panélistes favorables à leur opinion, soit pour conspuer les magistrats syndicalistes qui rappellent leurs revendications et dont le temps de parole semble réduit, d'après Edmond Issoufa d'Issinamak.
L'impression que nous avons ici, c'est que ce n'est pas des états généraux où nous devons échanger, mais ce sont des attaques dirigées contre les magistrats et ce qui semble ne pas être normal. À cette allure, on ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Ne nous donnons pas l'impression comme si quelque chose était déjà boutiqué et nous sommes simplement venus pour accompagner.
Dans les couloirs du centre financier, une dame expatriée s'étonne de ce qu'elle qualifie de désorganisation. Ce n'est pas cela, les états généraux qu'on attendait, nous déclare-t-elle dans l'anonymat.
Restons aux états généraux de la justice. La réforme de la justice et droit constitutionnel à l'information, pour quelle réforme? C'est la thématique abordée hier lundi par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Dans son exposé, Patrick Muyaya demande à son collègue de la justice de faire respecter la loi dite Muyaya, spécifiquement dans le traitement des dérapages qu'on enregistre dans le secteur des médias. Ceci, selon lui, pour éviter des abus constatés lorsqu'on arrête ou interpelle les journalistes. Toutefois, il appelle aussi les professionnels des médias au respect des lois établies dans l'exercice de leur métier. On écoute le ministre Patrick Muyaya dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Avec le président de la République, nous avions pris rendez-vous pour une salubrité médiatique. Salubrité médiatique qui devrait rimer avec une demande pressante de tous les professionnels des médias, qui est celle de la dépénalisation du délit de presse. Mais ici, dans cette loi, nous avons voulu faire un pas. C'est pour ça que dans la section 3, au sujet du droit de réponse et des rectifications, il est dit que toute personne, toute entreprise qui est lésée par un média, avant de saisir la justice, vous devez ressaisir ces médias-là, proposer votre droit de réponse et que ce droit de réponse doit être publié en l'état. Parce que nous savons que les journalistes ne doivent pas rester impunis dans un contexte où la responsabilité n'est pas toujours mise en place. C'est pour ça qu'en renforçant ou en appuyant l'UNPC à se recréer, c'est pour qu'elle se dote de pouvoir de constituer un tribunal de pair, pour être sûr que lorsque le journaliste se méprenne par rapport aux textes légaux qui sont rattrapés. Et la sanction des pairs est toujours sûrement peut-être plus dure que la sanction qui peut arriver plus tard.
L'actualité, c'est aussi la COP29 qui se tient depuis hier lundi à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. La délégation congolaise qui y prend part est conduite par la première ministre Judith Suminwa. Présent à cette rencontre, le responsable du groupe de travail Climat Raid et membre de la société civile congolaise dit regretter l'absence de certains grands pollueurs à ses assises. Toutefois, Omer Kabasele indique que la RDC qui se positionne comme pays solution est déterminée à valoriser ses ressources naturelles pour le bien des communautés locales. On écoute Omer Kabasele, joint depuis Bakou par Jean Gandou.
Les ambitions sont très élevées pour les pays africains qui sont venus ici déterminés à obliger ceux qui détiennent la responsabilité historique des changements climatiques de revoir à la hausse leur contribution. Il faut amener cette contribution annuelle à 130 milliards de dollars pour permettre aux pays en développement qui ne sont pas responsables des changements climatiques mais qui détiennent des solutions d'être en mesure de réaliser avec succès les approches d'adaptation et d'atténuation. La RDC voudrait à tout prix faire valoriser ce que nous avons comme ressources avec nos 155 millions d'hectares de forêt, avec nos tourbières, avec tout ce que nous avons comme réserve en eau douce, avec tout ce qu'on a comme minerais stratégiques. C'est ça la détermination de la délégation de la RDC, d'imposer nos exigences, nous faire entendre, parce qu'on ne peut pas nous imposer une conservation qui maintient en même temps la pauvreté des communautés locales, dont nous voudrons que les solutions que nous avons au changement climatique puissent être facteurs de développement dans notre pays.
Autre nouvelle, la Commission électorale nationale indépendante confirme la reprise des élections législatives nationales et provinciales à Massimanimba dans le Kwilu et Yakoma dans le Nord-Ubangi. Scrutin prévu pour le 15 décembre prochain. La CENI l'a confirmé hier lundi lors de la rencontre organisée à Kinshasa entre les responsables de cette institution et les candidats indépendants ayant compéti aux élections du 20 décembre 2023 ainsi que des membres des partis politiques. Selon le directeur de la communication de la centrale électorale, toutes les dispositions sont déjà prises pour une meilleure tenue de ces élections à Massimanimba et Yakoma. On écoute Jean-Baptiste Itipo au micro de Mnosa Yamasiki.
Le 15 décembre 2024 à Yakoma et à Massimanimba, Les préparatifs évoluent très bien. Déjà, il y a des équipes de la CENI sur terrain. La CENI a commencé d'abord par procéder au remplacement du personnel opérationnel qui était basé dans les deux circonscriptions par des personnels permanents du siège de la CENI. La CENI a procédé à la révisitation de la cartographie électorale. Maintenant, la CENI est en train de continuer avec l'affichage des listes électorales, mais aussi la délivrance des duplicata aux électeurs ayant perdu leur carte, mais aussi aux électeurs dont les cartes sont illisibles. Et la CENI vient de procéder récemment au recrutement des techniciens informatiques des centres de vote. Ils sont en train de passer leur test pratique sur ordinateur. Au courant de cette semaine, la CENI va procéder au lancement de la campagne électorale. Mais entre-temps, la CENI est en train d'assurer le déploiement du matériel du point de vue de la logistique dans ces deux circonscriptions.
Pour rappel, le scrutin du 20 décembre 2023 avait été annulé pour raison des fraudes, des violences et d'autres faits qui ont été condamnés par la centrale électorale.
Actualité internationale.
Nous sommes aux Pays-Bas, 4 jours après les violences qui ont visé des supporters israéliens en marge d'un match de football entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv dans la capitale néerlandaise. La situation sur place reste tendue. Dans la soirée du lundi 11 novembre, hier donc, des nouveaux incidents ont eu lieu en ville. Des jeunes ont notamment mis le feu à un tramway sans faire des blessés. Plusieurs individus ont une nouvelle fois été arrêtés.
L'invité.
La section genre de la MONUSCO sensibilise des leaders communautaires, notamment à Bogoro, Katoni et Komanda, en Ituri, sur l'égalité de sexe entre les hommes et les femmes, ainsi que sur les diverses formes de violences basées sur les genres. L'objectif est de promouvoir la masculinité positive en vue d'améliorer le statut de la femme et sa représentation dans les structures communautaires de l'Ituri. Pour en parler, nous recevons Noëlla Tabio, l'une des oratrices de cet atelier. Elle est avec Jean-Claude Loki.
Noëlla Tabio, bonjour.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce qui justifie l'opportunité d'une telle sensibilisation, surtout avec ces gens qui vivent dans la communauté? Est-ce que vous estimez, parce que cela, le problème est encore très sérieux avec les poids de la coutume, où ces messages passent difficilement et pour lesquels il faut cibler ces gens qui viennent des milieux ruraux pour que le message atteigne justement, sur, si on peut dire, ceux qui sont encore les conservateurs ou bien les extrémistes?
Cet atelier ne vise pas seulement des leaders communautaires ou bien les leaders de ces milieux ruraux, mais c'est aussi plus important même pour des autres leaders. Surtout, l'important, c'est dans l'essence de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme. Parce qu'avec les plafonds de verre, les murs de verre qui bloquent les leaderships féminins, qui bloquent les femmes, qui les maintiennent dans une situation inférieure aux hommes, cet atelier va leur permettre alors de se dévoiler le visage, de se laisser aller, de prendre aussi des positions et d'essayer aussi de laisser ouvrir leur potentiel. Alors si on a sélectionné les milliers ici qui est reculé, c'est pas seulement à cause des coutumes. Oui, je dirais oui, il y a aussi des coutumes qui peuvent tirer. Il y a des normes culturelles qui sont encore là et qui conservent encore très bien. C'est aussi pour les enfranchir, pas même les enfranchir, mais leur permettre de jouir de leur liberté, d'essayer de s'épanouir, de laisser voir aussi leur potentiel, de les mettre aussi à la disposition de la communauté et même du pays pour qu'elles puissent atteindre un bon développement. Et même pour les autres femmes qui ne sont pas de ces milliers, c'est un message vraiment très important pour nous laisser tous, toutes les femmes qui nous sommes, nous ouvrir, nous donner aussi à l'opportunité, accéder aussi à des positions de décision, à des ressources qui sont disponibles pour nous et de s'épanouir pleinement.
Comment justifier dans la salle la présence des hommes? Parce qu'on sait que quand on parle de violences sexuelles basées sur les genres, quand on parle de stéréotypes sexistes, quand on parle du genre, généralement on pense que ça concerne les femmes. Est-ce que vous pensez que s'il y a frein, s'il y a handicap, s'il y a blocage, c'est notamment aussi les hommes qui freinent ça?
Pour la présence des hommes, c'est juste aussi pour les sensibiliser et permettre aux femmes d'accéder, leur montrer que les femmes aussi peuvent faire, les femmes aussi sont importantes, les femmes aussi ont des mots à dire, elles ont des expériences, elles ont des connaissances, que les hommes ne prennent pas si les leaderships ou bien les histoires des genres comme c'est pour les femmes et les leaderships c'est pour les hommes. Non, on a tous des potentiels vu que Dieu nous a créés égaux. On a tous des potentiels qu'on doit mettre à la disposition de la société pour que nous puissions vivre vraiment un épanouissement et le développement. Alors la présence des hommes est justifiée par le fait que les hommes aussi doivent encourager les femmes, doivent comprendre que les femmes vont aussi à quelque chose et peuvent faire aussi quelque chose et leur laisser aussi accès, pas seulement réservé aux hommes, mais aussi prendre aussi les opinions des femmes, prendre aussi les connaissances des femmes en considération comme étant qu'entre humains libres des droits.
Là, l'un des participants a souhaité que ces jeunes sensibilisations soient aussi menées dans des fins fonds, là où c'est encore très prononcé. Il y a encore un besoin. C'est vrai, vous avez fait à Bogoro, c'est presque un centre de négoce, mais aller vers les fins fonds, là où il y a les conservateurs, comme je l'ai dit, c'est pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, parce qu'ils disent que là, il y a encore le besoin où, effectivement, la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit au siège, la femme, elle, c'est la cuisine, c'est les chances. Comment vous réagissez par rapport à cette réflexion d'un des participants qui est dans la salle, hein?
C'est pourquoi on a ciblé les leaders communautaires, parce qu'on sait qu'un leader est celui qui a toute une communauté à sa possession. Peut-être peut arriver que c'est un leader de ces milliers-là dans les fins fonds, alors à les former ici, c'est pour qu'ils partent aussi former les gens qui se retrouvent dans les fins fonds. À les sensibiliser, et c'est pour qu'ils partent aussi sensibiliser les autres qui ne sont pas, qui n'ont pas eu la chance de participer, qui ne sont pas avec nous ici, afin qu'ils apprennent, qu'ils retiennent quelque chose. C'est pourquoi on a ciblé les leaders, parce qu'eux, ils ont des communautés, des groupes qui sont à leur disposition, qui doivent aussi sensibiliser et ainsi de suite, que ça va continuer. Et aussi, pour ce qui concerne la sensibilisation de ceux qui conservent encore les normes quotidiennes, qui conservent encore la culture. Alors, c'est pour cela, les leaders doivent aussi comprendre que les changements ne peuvent pas venir du coup, mais c'est un processus qui va venir au fur et à mesure, avec des sensibilisations pareilles qui est aujourd'hui avec les leaders, que les leaders aussi doivent aussi sensibiliser à leur tour. Et je pense que ça fera une chaîne qui va se suivre. Et petit à petit, nous allons arriver à un changement.
Néla Tabio, merci.
Merci beaucoup.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.